grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Comme tous les vendredis, je vous propose de prendre un peu de recul sur notre vie quotidienne pour mieux l'apprécier. La question du jour, sommes-nous vraiment libres? Comment rester libre dans un monde compétitif, ultra-consumériste et individualiste qui a oublié la dimension tragique de l'existence? Comment faire pour que notre liberté ne se résume pas à notre seule faculté de jouissance et de consommation? Ce ne sont pas des sujets de philo du bac, mais des questions que nous poserons à notre invité Carlos Strenger, essayiste, philosophe, professeur de psychologie à l'université de Tel Aviv et qui publie un essai percutant « Allons-nous renoncer à la liberté » sous-titré « Une feuille de route pour affronter des temps incertains ». Libre à vous de réagir à notre conversation au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Alors dans votre vie des films tout à l'heure, il sera question du film The Hours qui met en scène trois femmes en quête de liberté.
Oui absolument, je pense que pour parler de liberté, c'est le plus beau titre, Les Heures. Les heures qui passent, mon Dieu, quelle horreur.
À tout à l'heure, bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef culture à l'Express, ce matin, dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien, eh bien un objet dans l'air du temps.
Mais oui, ce sont les Jeux Olympiques, je ne vais pas vous parler ski parce que j'y connais rien, mais je vais vous parler médaille, et peut-être même revers de la médaille.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebi.
Bonjour Carlos Strenger.
Bonjour.
Qui swing sur notre générique. Vous étiez en train de danser sur notre générique. Vous êtes philosophe, professeur de psychologie à l'université de Tel Aviv. Il y a 5 ans, vous aviez publié « La peur de l'insignifiance nous rend fous », l'un des essais les plus éclairants sur notre époque narcissique et égotique. Votre nouveau livre chez Belfond, c'est « Allons-nous renoncer à la liberté ?» Pourquoi ce titre pessimiste ?
Pour commencer, si nous regardons la vague qui passe toute l'Europe, de l'Est à l'Ouest, l'Hongrie et la Pologne, ils ne sont déjà plus des démocraties libérales, c'est-à-dire ils ont renoncé à la liberté. En Autriche, nous avons aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite, bien que ce soit encore, une démocratie libérale. Pensons à la France, avec Macron, la France a eu beaucoup de chance, je pense. Mais je veux toujours que nous nous souvenions du fait que Marine Le Pen a pris 34% du vote électoral. C'est-à-dire que nous vivons dans une période où certainement politiquement renoncer à la liberté, ça, c'est devenu un trend. Je ne parle pas des États-Unis où on a
un trend, c'est à la mode.
La bonne. Pardon, mon français est assez rouillé, alors il vous faudra vous patienter avec mes petites fautes. Hein. Et puis, sur le plan personnel, la pensée un peu plus profonde sur qui suis-je, qu'est-ce que je veux être, quelles sont mes valeurs de fond, et surtout remplacé par la grande question, est-ce que je vais acheter un iPhone 10 ou un Samsung 8? La liberté, on commence à se demander, est-ce que nous sommes en train de renoncer?
Alors, dans cet ouvrage, vous questionnez donc notre rapport à la liberté, mais d'abord, quelle est votre définition de la liberté? Et tout au long de cet ouvrage, quel type de liberté défendez-vous?
Il y a la grande, très importante différenciation que Isaiah Berlin, le grand philosophe libéral du XXe siècle, a fait entre la liberté négative et la liberté positive. Dans la liberté négative, c'est tout simplement, est-ce que je peux faire ce que je veux, sans nuire aux autres, sans que l'État s'y mêle. Et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes dans un problème parce que nous vivons dans le temps de ce qu'on nomme en anglais the nanny state, c'est-à-dire l'état
maman.
Ouais, mais l'état maman qui nous dit non, maintenant tu fais un pullover, tu ne fumes pas, tu prends ça, on prend pas autre chose, etc., etc. Puis il y a les libertés positives qui est beaucoup plus complexe. Dans un mot, c'est la question, est-ce que je suis vraiment autonome. Auto, c'est le moi. Nomos, c'est la loi. Est-ce que je suis dirigé par Donan ou est-ce que je suis qu'un reflet de pression extérieure, soit de pression de façon négative, soit de pression justement de consommer, de l'autre a déjà acheté l'iPhone 10, moi j'ai seulement le 7, alors quelle catastrophe. Et de ce point de vue-là, je pense que je parle de tendances qui sont très très visibles dans notre mode occidental qui se dit libre.
Pour résumer, la liberté négative, c'est donc quand personne ne vient gêner mon action, quand on n'empêche pas la réalisation de mes désirs. Et puis la liberté positive, c'est quand mes décisions dépendent de moi, quand je suis l'instrument de ma propre volonté et non celle des autres. Guillemette Audicino, vous avez lu le livre de Carlo Strenger
Ah oui, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça passionnant. Le seul problème, enfin qui n'en est pas un, c'est que comme vous vous référez à beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres et tout, du coup je pense qu'on va être obligé d'acheter à peu près 16 bouquins parce que sinon ça donne envie de lire des choses qu'on n'avait pas lues auparavant. Moi c'est sur ce que vous appelez la corporéité que ça m'a fascinée, c'est-à-dire le fait que nous ne sommes même plus libres par rapport à notre corps, que notre corps n'est plus une entité libre, mais que on veut que notre corps ressemble à ce qu'on nous dit qu'il doit être. C'est cette obsession de manger sainement, et vous prenez comme exemple ce tableau de Courbet, L'Origine du monde, qui continue à être choquant parce qu'il montre en fait un sexe féminin, mais exactement comme il est. C'est-à-dire exactement dans son naturel, c'est-à-dire à la fois organique et érotique, mais dans une vérité absolue. C'est extrêmement intéressant sur le corps, je trouve.
Oui, pour moi, c'était incroyable de voir les scandales. Facebook qui a descendu une photo qu'on a mis là.
Moi, de Courbet, hein.
Il y avait un internaute qui avait mis le tableau de Courbet et Facebook a interdit.
Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui surveille spécifiquement ce tableau parce qu'on a peur que quelqu'un va le casser, hein.
Serge Guérin, vous êtes sociologue et l'un des experts éclairés de cette émission. Vous aimez les livres de Carlo Strenger. Expliquez-nous pourquoi, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui découvrent ce matin Carlo Strenger.
Carlo Strenger, c'est jubilatoire d'abord. C'est-à-dire que ça fait plaisir à lire. Ça ouvre, il parle, ça éclaire. Le mot est beau d'ailleurs, ça éclaire. Il est un peu, je dirais aussi, à contre-courant, qui je crois d'ailleurs était le nom de l'autobiographie d'Ishai Berlin. À contre-courant. Donc vous êtes dans cet élément-là. Je crois que c'est très fort. Et en fin de compte, ce qu'il nous apprend tout simplement, c'est que la liberté, elle n'est pas donnée, elle n'est pas assurée. Qui est quand même l'élément majeur. C'est-à-dire que, par contre, on croit, on vit dans un truc, c'est cool, c'est chouette, on peut aller aux terrasses du bistrot, c'est merveilleux et tout ça. Et puis on a une grande liberté parce qu'on peut choisir 450 marques de bière. Ça prouve qu'on est libre. Et puis on a 800 chaînes de télévision. Waouh, qu'est-ce qu'on est libre. Et lui, il nous explique que c'est pas si simple que ça, que la liberté c'est chaque jour, et que c'est un devoir, et que c'est difficile. Et je crois que voilà. Et d'une certaine manière, bon, c'est vraiment ça, je crois, le message essentiel. Le message aussi où il dit, on n'est pas tous des victimes. À un moment donné, il faut arrêter. C'est parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans le concours des victimes. Moi, je suis plus victime que toi. Chacun fait un concours de la minorité. Vous savez qu'il y a une étude de Via Voice qui montrait que 39% des Français pensent qu'ils font partie d'une minorité. À 39%, on n'est plus une minorité. Il y a un délire complet. Chacun, alors, Carlos Stenger et moi, et vous, vous en partie d'une minorité, nous sommes tous les trois chauves. Alors, mais là, du coup, c'est plus une minorité sur 5, vous voyez. C'est n'importe quoi, chacun veut être la minorité. Et ce qui nous montre, c'est que c'est pas ça l'enjeu. C'est au contraire, comment on construit un collectif. Et puis l'autre élément, enfin il y a deux autres éléments, c'est, vous le savez, Arendt est morte, Aron est mort, Camus, à mon grand désespoir, est mort, il nous reste Strenger. Et d'une certaine manière, c'est ça. Et puis l'autre élément, c'est qu'à un moment donné, il a une formule, il a quelque chose, pour moi, d'essentiel, il parle d'ascèse épicurienne. C'est alors, l'écologie dites-vous, positive. Ça veut dire quoi ? Ascèse, c'est-à-dire qu'il dit, à un moment donné, justement, on n'est pas forcé d'acheter tout. Ces désirs qui nous affligent, disait un grand chanteur dont je ne retrouve plus le nom à la seconde. Souchon. Voilà. Souchon, ces désirs qui nous affligent. C'est exactement ça. Ah, je peux pas avoir telle ou telle marque et tout ça. Dis, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Je peux pas faire telle ou telle chose. C'est pas de ma faute, c'est de leur faute, c'est la faute de la religion, de qui sais-je. Non. C'est d'abord toi. C'est regarde-toi et regarde ce que tu peux faire, même si c'est pas idéal, même si ce sera pas total. Parce que ce qu'il nous dit aussi, c'est que le bonheur pour tous, ça n'existe pas. On n'aura pas 100% de bonheur. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça rassure?
Guillemette Odissino.
Oui, c'est très intéressant la notion de la faute. C'est la faute de l'État, c'est la faute du système. Et il y a aussi de longs passages sur c'est la faute des parents. Alors ça décomplexe le livre. Vous avez tous des enfants, alors lisez le livre parce que ça décomplexe. Il y en a marre de dire que c'est toujours la faute des géniteurs. C'est pas forcément eux qui nous ont traumatisés et à la naissance et pendant notre enfance.
Alors Carlo Strenger, au XVIIIe siècle, ce bon vieux Rousseau écrivait que l'homme est né libre et pourtant partout il est dans les fers. Et pour vous, dans les années 2010, nous nous croyons libres mais nous sommes enfermés dans une prison que nous avons nous-mêmes édifiée. Vous considérez que nous sommes devenus les propres geôliers de notre liberté ?
Pour commencer, je suis un grand anti-rousseauien. Je pense que Rousseau, qui est en France, surtout en France, est souvent pris comme le grand théoriste de la démocratie, je pense qu'il est vraiment un proto-fasciste. Comment ça avec tout, nous sommes tous nés libres et puis nous sommes tous enchaînés. Le grand penseur russe libéral du 19e siècle, Alexander Herzen s'est moqué de ça en disant c'est comme de dire tous les poissons sont nés à voler et pourtant les voilà tous, ils nagent tous. Non, nous ne sommes pas nés libres. Nous sommes dans un nexus de dépendance, de parents, de culture, de société, etc. Et cette idée de que si on nous laisse seulement en paix, nous serons libres, c'est une illusion complète. Et ce qui rend Rousseau pour moi proto-fasciste, c'est son idée de la volonté générale.
Expliquez-nous.
Ça, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui avec l'ascente du populisme. Mmh. Il y a la volonté du vrai peuple. Et voilà le leader qui parle cette volonté. Que ça soit monsieur Trump, l'adorable monsieur Trump, ou l'adorable madame Le Pen, ou monsieur Orban, etc., etc. Alors, de ce point de vue-là, moi, je prends la position complètement différente, qui à propos existe. Vous m'avez tellement bien présenté que je me suis dit, je peux aller, je peux m'en aller. Vous faites beaucoup mieux que moi. qui dit non, la liberté, c'est un travail qui se passe pendant toute la vie. Il se termine jamais.
Allez, libre à vous de réagir ce matin à notre conversation 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Claire Destacan, Théo Denmat, Antoine Vandeville, Chloé Loribeau et Manon Rax m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Qu'est-ce que c'est bon, Diana Ross et les Suprêmes, à 10h22 sur France Inter.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres,
grand bien vous fasse,
j'écris ton nom.
Sur France Inter.
Sommes-nous vraiment libres dans un monde ultra-libéral, ultra-consumériste? C'est la question posée ce matin avec le professeur en psychologie à l'université de Tel Aviv, Carlo Stringer, qui publie « Allons-nous renoncer à la liberté ?»
Regardez, c'est impressionnant, la file d'attente débute derrière le bâtiment, sur des mètres et des mètres, je ne pourrais pas vous dire, hein. En tout cas plus de 50 mètres, des centaines d'adeptes attendent ici, parfois même depuis hier après-midi. On a rencontré ici des Russes, des Espagnols, des Italiens qui ne peuvent pas attendre pour se procurer cet iPhone 5. On va aller interroger certains adeptes. Bonjour, quand est-ce que vous êtes arrivés ?
Eh ben, on est arrivé à 20h hier soir.
Vous avez donc passé la nuit ici.
Ça fait donc 12 heures que nous sommes sur place, debout, en pleine forme, comme vous pouvez le voir. Le teint fringant.
On perd pas le moral en fait.
C'est ce que... Et pourquoi vous avez décidé de venir aussitôt hier soir? Pourquoi?
Aussitôt hier soir, pour être dans les premiers.
Le bonheur de la pomme.
Récupérer l'iPhone, deux choses. Genre, le premier, genre d'être en bonne ambiance, de pouvoir vivre une expérience, de faire une queue, genre pendant 12 heures comme il a dit. De récupérer un objet matériel, mais qui a aussi son importance. Et en même temps, enfin... d'avoir une bonne expérience de vie, quoi.
Vraiment, ouais. Je pense que c'est le terme expérience. Voilà. Vivre quelque chose qu'on n'avait jamais vécu.
Donc vous faites la queue pour payer plus de 600 euros, c'est ça ?
900 pour le nôtre.
Carlo Stringer, c'est notre mentalité de consommateur qui creuse la tombe de notre véritable liberté. Mentalité de consommateur illustrée dans cette course, hein, au nouveau smartphone, dans ce reportage de BFM TV en 2012. Bien souvent, nous avons la fâcheuse tendance à confondre la liberté et la liberté de choix.
Oui, mais je pense qu'il y a deux modes de dénier la liberté. L'une, c'est vraiment de se jeter dans ce monde du consumérisme, mais il y a aussi une autre forme du déni de la liberté qui est beaucoup plus dangereuse, que nous connaissons très très bien. C'est les systèmes de croyances qui essayent de complètement se détacher de ce monde matériel. C'est d'un côté les fondamentalismes religieux, et il y en a dans toutes les religions. Aujourd'hui, on a bien de se concentrer sur l'islam. Et il y a ça dans le judaïsme, il y a ça dans la christianité, il y a ça dans l'hindouisme, etc., etc. D'un côté, et puis de l'autre côté, aujourd'hui, nous l'avons avec l'ethnonationalisme, c'est-à-dire le désir, le besoin qui est la grande autorité qui me dit ceci est vrai et je suis capable de soumission, comme dit le titre du roman de Houellebecq, de soumission à quelque chose que je ne dois plus. J'ai plus de doute. Maintenant, je me suis débarrassé enfin de ma liberté. Et là, ça devient souvent létal, dans le sens littéral du mot.
Et sur le fait que nous confondions liberté, liberté de choix, notamment en matière de consommation.
Ah oui, dans ce cas-là, il y a aujourd'hui beaucoup de recherches sur ça. Et ce qui est fascinant, c'est que des grands chercheurs comme Daniel Gilbert à Harvard ont démontré de façon très très convaincante que le plus de choix que nous avons, le plus malheureux que nous sommes. Oui. Parce qu'on a constamment, mais peut-être j'aurais pas dû acheter l'iPhone, j'aurais dû acheter le Samsung. Et puis maintenant il y a un journal qui dit que le Samsung est mieux, le malheur absolu.
C'est l'insatisfaction permanente.
Ouais.
Je pourrais toujours avoir mieux.
Ouais.
Et donc je peux pas me contenter de ce que j'ai.
Serge Guérin.
Et je crois que l'autre élément quand même qui est majeur, c'est que dans une société ultra complexe, en fait. Beaucoup de gens, le poème qu'on a entendu d'Éluard sur la liberté, avec la voix d'Éluard, c'est d'abord un poème d'amour. D'ailleurs, les censeurs croyaient que c'était un poème d'amour. Et c'est un poème d'amour, mais d'amour de la liberté. Et ce qu'on voit bien avec Carlo, c'est que finalement, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pas du tout amoureux de la liberté, parce que c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Je préfère qu'on me dise où faire, comment faire, à quelle heure prier. Du coup, on m'organise mon corps, on m'organise ma pensée, et c'est tellement plus facile à vivre.
Prier, c'est ça, ou consommer.
Prier, consommer, c'est pas, c'est presque pareil. Prier peut être parfois plus dangereux, hein, mais ça dépend consommer quoi. En plus, c'est pas grave, puis on verra demain. Encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Laissez-moi encore consommer, laissez-moi encore prier, mais surtout ne me demandez pas de réfléchir. Or, la modernité, les lumières, c'était t'as le droit, tu peux, on va presque t'obliger à réfléchir en te formant, en te donnant les outils pour réfléchir. Et c'était la grande université qui était là pour ça, c'était l'école. Rappelons Jules Ferry, il rend l'école obligatoire. Donc là, il y a bien une obligation pour rendre les personnes plus libres. Et là, ce qu'on voit bien avec vous, Stenger, c'est que d'un seul coup, c'est trop compliqué. Pense à ma place.
Mais là, il faut aller à, je pense, ce qui est même pire, c'est que la grande idée du 19e siècle, qui est une, j'aime très bien le terme anglais, liberal education. Je le traduis l'éducation pour la liberté. Qui était vue comme essentielle pour les systèmes scolaires. Nous l'avons oublié complètement. La seule, dans le discours public, la seule question qui compte, c'est est-ce que ça va aider l'étudiant d'avoir un meilleur job, de faire beaucoup plus de fric, et est-ce que ça contribue à l'économie. Et la grande idée que la formation d'un être humain, c'est aussi de nous donner les outils, comme vous avez dit, pour choisir vraiment.
Pour être adulte.
Pour être adulte, pour choisir sur une base profonde. C'est quelque chose qui, on n'en parle pas du tout.
D'ailleurs, même dans les mots, on parle de qualification. Les gens ne sont pas assez qualifiés. On ne parle plus d'éducation.
Exactement.
Et en effet, il y a quelque chose autour de ça. Il n'y a plus l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à être mature, à être citoyen, à être adulte. Et à la place, moi, je suis prof dans une école de commerce, on rajoute des cours de sciences humaines en disant il y en a besoin. Il y a plein d'autres endroits où, à l'inverse, on les enlève. C'est un peu délirant.
Guillemette Odissino qui piaffe.
Non, mais je piaffe, mais en fait, ces messieurs, du coup, on dit. Non, mais c'est vrai que, effectivement, on ne forme plus des citoyens, on forme de futurs salariés, de futurs chefs d'entreprise,
des consommateurs.
De futurs consommateurs. Mais est-ce que. Et cette notion, du coup, aussi du trop grand choix, mais est-ce que c'est pas ça qui, effectivement, mène au populisme? C'est-à-dire que on préfère que Marine Le Pen nous dise qu'il faut détester un tel et obéir à soi, etc. Enfin, est-ce qu'en fait, mais c'est drôle comme la liberté finalement mal pour le coup mal gérée peut mener au pire en fait.
C'est exactement le grand problème, la vraie liberté, c'est-à-dire l'idée de vraiment penser profondément, non seulement penser profondément, mais sentir profondément. Parce que je pense que la vraie liberté, c'est non seulement quelque chose d'intellectuel, mais c'est de créer un amalgame de mes plus profonds désirs avec mes pensées, avec ce que j'ai vraiment pensé après que j'ai quand même connu la base culturelle qui m'a formé. C'est incroyable, vous savez, encore une fois, il y a le grand livre d'Erich Fromm de 1941, exactement dans une période où l'homme a échappé la liberté de façon la plus catastrophique dans la grande période du fascisme, qui a parlé de ça. Et je pense que l'hypercomplexité de notre situation aujourd'hui augmente le désir de fuir la liberté.
Alors Carlo Strenger, dans son brillant essai Le paradoxe du choix, le professeur en psychologie sociale Barry Schwartz nous rappelle que de nombreux Occidentaux se disent de plus en plus insatisfaits alors que leur liberté de choix s'étend. Plus en plus de dépression, d'insatisfaction, d'angoisse.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a encore quelque chose de plus. Je pense que une des pires illusions que notre culture porte constamment, c'est qu'aussi bien la liberté, mais surtout que le bonheur est un droit fondamental. Et si jamais je ne suis pas aussi heureux que je pense qu'il me faut être, comme si j'ai acheté un iPhone et il ne fonctionne pas bien, j'ai des conditions de garantie, je peux venir avec les conditions de garantie à la société, ce terme énormément vague, et dire, eh ben, il y a quelqu'un qui doit réparer ça parce que ça ne marche pas bien.
Après le mariage pour tous, c'est le bonheur pour tous.
Et Carlos Strenger, dans La peur de l'insignifiance nous rend fous, l'un de vos précédents livres, vous critiquiez le célèbre slogan de Nike, Just Do It, que l'on peut traduire par rien ne t'empêche de le faire. Ce slogan publicitaire qui signifie au fond, tu peux le faire car ta liberté est illimitée. Quels sont les effets pervers de ce slogan, Just Do It, et de la philosophie, petite philosophie que ça accompagne ?
Un malheur interminable, parce que vous savez les vidéos de Nike étaient des chefs-d'œuvre faites par Spike Lee,
notamment
le grand régisseur avec Michael Jackson, et ils sont émouvants, hein, c'est incroyable. Et puis je regarde ça, alors ça dit je peux achever tout, ben à la fin, je suis médiocre. À propos, par définition, 90%, même plus que ça, que nous, seront par définition médiocres. Et alors, je me dis, mais je suis vraiment
En fait, l'effet pervers de ce slogan du Just Do It, c'est que ça nous fait croire que la liberté, bah, c'est le synonyme d'absence de limite.
Exactement. Et là, pour retourner au sujet de la corporalité que vous avez adressé de façon si courageuse et belle avant, est un sujet avec lequel nous nous arrangeons pas du tout. Et c'est pour ça, moi aussi, je vais au gym et je travaille avec des poids.
Des haltères.
Pour quand même, il faut que je me forme et que je reste en forme dans tous les sens du mot. Et la trouille incroyable que la gravitation, l'âge va montrer ses petits résultats, comme chez nous tous.
Allez, elle est pas médiocre du tout, elle est libre comme l'air, Guillemette Odissino, la vie des films.
La vie des films,
t'as été formidable, tu sais.
Allez, faut pas rester là, voyons, Corneille, va surveiller la fricassée.
Guillemette Odissino.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Laura, je ne te dérange pas?
Pas du tout, entre.
Ça va?
Très bien, oui.
Ça va, Richie ?
Assieds-toi, j'ai du café.
Oh, tu as fait un gâteau !
Je sais, oui. Ça n'a pas marché. Je pensais que ça allait marcher, mais que ça marcherait mieux que ça, en tout cas.
Oh, Laura, c'est incroyable. C'est pourtant pas bien difficile.
Je sais, c'est vrai.
Tout le monde sait faire un gâteau.
Oui,
c'est... N'importe qui, c'est pas sorcier, vraiment. Enfin, tu as d'autres qualités. Et Dan t'aime tellement qu'il ne remarquera rien. Quoi que tu fasses, il trouve toujours ça magnifique. Mais oui, c'est vrai.
Guillemette Odissino dans La vie des films cette semaine. The Hours, le film de Stephen Daldry, adapté d'un roman de Michael Cunningham. Un film et un livre qui met en scène trois femmes en quête de liberté.
Oui, absolument. Alors, je le redis, hein, Les Heures. Est-ce qu'il y a plus beau titre que ça? Peut-être que le seul qui pourrait faire compétition avec Les Heures, c'est Les Choses de la Vie. C'est tout. Voilà, ce sont les deux plus beaux titres du monde. Donc oui, effectivement, il y a trois femmes dans cette adaptation du roman de Michael Cunningham, qui il faut le lire aussi, hein. Vous regardez le film, vous lisez le bouquin, vous faites tout en même temps, qui raconte donc trois émancipations féminines, non seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis de la mort. Et à trois époques différentes, superbement mises en écho. À la fin des années 20, Virginia Woolf écrit son chef-d'œuvre, Mrs. Dalloway. Laura, mère au foyer à Los Angeles dans les années 50, est bouleversée dans sa cuisine par la lecture de ce livre. Et à New York, Clarissa est une Mrs. Dalloway d'aujourd'hui, occupée à organiser une soirée et qui sort acheter des fleurs. Donc c'est juste une journée de plus dans la vie de trois femmes. Vous allez me dire, il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Au contraire. Car ces femmes perçoivent la beauté déchirante de l'éphémère et le tragique de l'existence, quand autour d'elles, les hommes, certaines fois quand même un peu branquignoles, se croient, eux, libres par principe. Qu'y a-t-il de plus tragique que de prendre conscience des heures de nos vies, ce qui les rend à la fois inestimables et insurmontables. Laura pourrait être une héroïne de la série Mad Men. Cette ménagère américaine dont le bonheur d'après-guerre est censé dépendre dorénavant de l'achat d'une machine à laver ou d'une Chevrolet. Clarissa se souvient de sa jeunesse, où elle n'était pas encore cette grande bourgeoise qui fait semblant d'être heureuse. Et bien sûr, Virginia écrit son livre « Envers et contre tout », alors que la folie guette. Elle tente de contrôler leur existence, elle tente de contrôler leur liberté, de la créer. Alors que, comme Virginia Woolf l'écrit, la vie s'amenuise. Cher Carlo Strenger, voilà bien trois femmes qui ne cèdent pas à l'illusion de l'immortalité. Et quand on est conscient, comme elle, de sa mortalité, finir un roman, confectionner un gâteau d'anniversaire ou organiser une réception devient un acte héroïque. C'est ce que ce film somptueusement mélancolique montre. Bon, avec trois actrices au sommet de leur art, ça, regardez la jaquette du DVD, c'est marqué dessus. À sa manière douce, insidieuse, ce film montre ô combien que le bonheur n'est pas un dû et que la liberté commence en se trouvant peut-être physiquement ou mentalement, et coûte que coûte, une chambre à soi, un endroit pour affronter tous les temps incertains.
La vie des films de Guillemette Odissino, Carlo Strenger.
Écoutez, premièrement, j'aimerais bien d'avoir votre capacité poétique. C'était votre texte était très beau. Je n'ai rien à faire, vraiment à dire de plus. C'est le roman et le film, c'est des chefs-d'œuvre. Et je pense à propos que c'est très intéressant. J'ai pas vu ce film ni lu le livre comme la quête de la liberté, mais vous en avez complètement raison. Je veux pas gâcher à ceux qui n'ont pas vu. Justement. Mais vous avez, ce qui est certainement vrai, c'est l'éphémère et la structure tragique de cette quête de la liberté d'avoir une vie qui nous appartient vraiment.
Et qui nous ressemble.
Exactement. Et portrayée de façon très, très touchante et très, très profonde.
Là. Alors, notre réalisatrice, Stéphanie Texier, exige que l'on cite les trois comédiennes quand même.
Alors, c'est Meryl Streep dans le rôle de Clarissa, donc la Mrs. Dalloway d'aujourd'hui. C'est Julianne Moore dans le rôle de la ménagère des années 50. Et c'est Nicole Kidman, avec certes un faux nez, mais on l'oublie assez vite dans le rôle de Virginia Woolf.
Allez, vous pouvez nous contacter au 01 45 24 7000. Et j'aimerais juste citer cette définition de la liberté d'Anne qui nous a écrit sur notre page Facebook. La liberté, c'est la conscience d'avoir le choix du jeu parmi des cartes imposées par la culture et la société et l'éducation. Et bien sûr, d'essayer de concrétiser ce choix dans notre vie de tous les jours. Ben, comme elle, donnez-vous votre définition de la liberté. 01 45 24 7000.
J'aime ta peau dorée, toi qui me donnais tout, de ta main délivrée. J'aime la peau dorée, mais maintenant je pleure. Oui, maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois sont passés, les saisons. Mais moi, je suis resté le même. Qui aime, qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui attend de reconnaître un jour le printemps. Nous ne nous reverrons plus sur terre, ni le poème, le passé vient plus vite qu'on pense. La, 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 la. Ah, ce brin de bruyère, un souvenir pour récompense. Elle est cet endroit où dans l'ombre confuse les démons et les anges se mélangent. Ah, je te rejoins dans cette brume épaisse que le tabac, le banjoin obscurcissent. Alors je pleure ton nom. Oui, je pleure. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Et moi, comme toujours, ont passé les saisons. Mais moi, je suis resté le même qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui espère connaître la fin de l'hiver. Le passé vient plus vite qu'on ne pense. La, 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 la. À genoux, j'implore au ciel et mer. Et ces brins de bruyère, seul souvenir pour récompense. Ouais, comme Apollinaire, un souvenir pour récompense.
Feu Chatterton, interprété Souvenir.
On est, on vit.
France Inter.
On prépare.
Grand bien vous fasse.
C'est comme ça pour tout le monde.
Pas forcément.
Ali Rebi.
Ah voyons.
10h43, sommes-nous vraiment libres? C'est la question que nous posons au professeur en psychologie à l'université de Tel Aviv, Carlo Stringer, qui publie « Allons-nous renoncer à la liberté ?» Alors on a une question pour vous, Carlo Stringer. Est-ce que vous, vous vous sentez prisonnier de notre société d'ultra-consommation?
Pas trop, parce que...
Et comment vous faites alors?
Non, pour commencer, je ne prêche pas une existence de moine. C'est-à-dire quand le MacBook 12 est sorti avec son élégance incroyable, j'ai dit, il me le faut, absolument. Et j'étais très heureux quand je l'ai acheté. Et j'aime bien les Brand, j'aime bien Armani, j'aime bien Cerruti, j'aime bien... Et je me gêne pas de ça.
Merci pour les marques, on est sur le service public, c'est bien.
Pardon.
Il aime bien aussi France Inter, par exemple.
Non, c'était des références culturelles, purement sur ce... Ouais, les petites gaffes, ouais.
En tout cas, Carlo Stringer, pour vous, pas de véritable liberté sans prendre en compte le tragique de nos vies.
Ouais.
L'inévitable tragique de nos vies. Et ça, c'est un problème pour vous.
C'est un problème pour nous tous. Voyons bien. Je peux, même si j'assume la responsabilité de ma vie, même si j'arrive à définir quelles sont mes passions centrales, et même si j'ai un projet réaliste pour le mettre en action, que ce soit de bâtir un business, que ce soit d'être artiste, dans mon cas d'être auteur, etc., ça peut ne pas marcher. Hein. Ça peut ne pas marcher. Et puis là, c'est-à-dire l'élément tragique, il est inévitable.
Et pour vous, la liberté se conquiert en ayant toujours à l'esprit la dimension tragique de l'existence. Il faut toujours avoir ça à l'esprit.
Oui, mais ça ne veut pas dire, vous savez, les existentialistes des années 50, il y a 70 ans, alors il fallait être tout à fait en noir. Je suis en noir, mais tout à fait, pas à quoi ça. Et avec une Gauloise sans filtre, et puis depuis le matin, d'être avec un pastis. C'est pas ça l'idée, c'est pas de se balader avec la gueule d'être triste tout le temps. Mais c'est tout au contraire, c'est de ne pas se prendre tellement sérieux et savoir que l'échec, ça fait partie de la vie de nous tous. Et inclut l'échec ultimatif que, si nous le voulons ou non, nous allons mourir à la fin.
Serge Guérin, vous êtes sociologue et l'un des experts de notre émission.
C'est-à-dire que il y a quelque chose de très fort, c'est que c'est parce que on a ce sens du tragique qu'on a envie de faire des choses. Sinon, si je vis 1000 ans, par exemple, espèce de mythe comme ça, bah, pourquoi faire ça aujourd'hui? Je verrai ça dans 400 ans. C'est pas grave, on est, voilà. C'est-à-dire que le fait d'avoir le sentiment du tragique n'interdit pas la joie et oblige à se décider. Sinon, je peux attendre. Donc c'est le sens du tragique qui nous oblige à dire, je vais essayer de faire ça et ça. Et même si j'y arrive pas, au moins j'aurai essayé. Et de se dire que tout sera pas idéal. Le bonheur sera pas total, le bonheur sera pas idéal, mais ça m'interdit pas la joie et ça m'interdit pas d'essayer. C'est parce que j'ai cette conscience du tragique. Le tragique, c'est peut-être même ce qui nous distingue de tous les autres. Si je sais que je vais mourir, peu d'animaux sont au courant qu'ils vont mourir. Nous, on le sait. Et il y a plein de gens qui vont se réfugier, par exemple, dans les drogues, dans la consommation ou dans la religion, pour éviter justement ce tragique, en disant « je vais pas mourir puisqu'il y aura autre chose après ». Et donc, je suis pas trop responsable de l'autre chose, donc c'est pas de ma faute. Donc c'est aussi une manière, réduire le tragique, c'est aussi une manière de réduire sa propre responsabilité. Or, ce dont on a la trouille tous, c'est d'être responsable. Parce que finalement, à un moment ou à un autre, c'est ce que disait Guillemette tout à l'heure, à un moment ou à un autre, c'est de ma faute. Il faut accepter que ce soit aussi de sa faute. C'est pas toujours de la faute des autres. Moi, j'ai des étudiants qui me disent « Ah, c'est pas de ma faute, c'est... » Mais non, à un moment donné, c'est de ta faute. T'as pas bossé, voilà. C'est... Il faut accepter ça.
Guillemette Odissino.
Oui, mais dans les... Il y a pas que le mensonge, éventuellement, des croyances, etc. Mais dans la société aussi, dans sa modernité maintenant, dans son ultra-modernité, nous donne l'illusion de l'immortalité, puisque on fait reculer l'âge de la mort.
Mais on vit plus longtemps.
On est obsédé par la jeunesse éternelle, la cosmétologie, la chirurgie esthétique. Maintenant, il y a des grands industriels qui investissent des milliards pour essayer d'augmenter le corps. Donc, enfin, l'illusion de l'immortalité, on nous la sert tous les jours au petit déjeuner, quand même.
Carlos Stringer.
Je n'ai rien à acheter. Écoutez, vous pouvez me combiner avec des partenaires qui me représentent mieux que je le fais moi-même.
Allez, on est obligé d'être à deux.
Au téléphone, Bernard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Que vous inspire notre sujet du jour?
Eh bien, écoutez, ça m'inspire essentiellement la philosophie de Spinoza.
Ah ben, dites-nous tout alors.
Eh bien, il a une conception, il l'a écrit entre autres dans l'éthique, une approche de la liberté que je vais résumer à partir de « Nous sommes libres parce que nous agissons grâce à la raison, à partir de notre nature singulière et non sous l'influence des causes extérieures. » Et pour Spinoza, c'est une conquête personnelle. Alors effectivement, je ne vais pas faire de la publicité sur Frédéric Lenoir comme vous, mais il traduit d'une façon très claire la philosophie de Spinoza, notamment dans ce domaine-là, et c'est à la portée de tous.
Merci beaucoup.
La liberté, c'est d'abord une conquête individuelle sur soi.
Merci beaucoup Bernard d'être intervenu ce matin.
Je peux seulement...
Je suis très, très anti-libéral, hein. Ça se voit dans tous mes livres, et... Baser une société sur la liberté et le droit à la poursuite du bonheur, ça me paraît conduire inéluctablement au carnage, plus ou moins policé, enfin, peu policé en Amérique, enfin, finalement.
Carlos Stringer, vous êtes plutôt d'accord avec ce que vient de nous dire l'écrivain Michel Houellebecq, la liberté et le droit au bonheur peut nous conduire au carnage policé?
Voyons... J'estime beaucoup l'œuvre de Michel Houellebecq. Je pense qu'il est, il met le poids exclusivement sur un côté, mais je pense comme image d'un aspect important de notre présent historique, il était un écrivain très important. En même temps, je suis exactement le contraire du point de vue de ma conclusion. Lui, il dit les idées des Lumières, c'est mort. Et moi, je dis les idées des Lumières sont en crise. Eh ben, il faut bien se mettre à la bataille.
Et c'est quoi pour vous, très vite, l'idée d'une liberté disciplinée? Ça veut dire quoi? C'est ce que vous défendez dans votre ouvrage, la liberté disciplinée.
C'est de savoir que le conflit et la tragédie est essentiel à notre existence. Et comme vous avez dit très très précisément avant, l'acceptance de la tragédie, c'est aussi la source de la joie. Exactement.
Merci beaucoup, Carlo Strenger. Je recommande vraiment « Allons-nous renoncer à la liberté ?» Une feuille de route pour affronter des temps incertains. C'est publié chez Belfond. Merci d'être venu, Carlo Strenger.
C'était un grand plaisir.
À suivre, Éric Libio, après le disque.
Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again.
L'excellent Grégory Porter, 11h05 sur France Inter. Ah, ça me fait du bien de vous retrouver, Éric Libio.
Mais pareillement.
De l'Express, pareillement. Cette semaine, dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien, vous parlez de médailles, JO d'hiver oblige.
Ben oui, l'important c'est de participer, disait Pierre de Coubertin, patron des Jeux Olympiques modernes, donc si j'en crois le baron, la victoire,
fondateur.
On s'en fout. Fondateur, effectivement, des Jeux Olympiques modernes, donc si j'en crois le baron, la victoire, on s'en fout, et la médaille aussi. Pas sûr que tous les sportifs de haut niveau actuellement sur les pistes enneigées en Corée du Sud soient d'accord avec l'ami Pierrot, eux qui préfèrent décrocher une médaille d'or davantage qu'une médaille en chocolat qui, de toute manière, va finir par fondre. Mais en fait, il semble que Pierre de Coubertin ait dit autre chose, je cite, « L'important dans la vie n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Alors là, bon, d'accord. Lutter, c'est autant gagner que perdre, et si la médaille est éclatante, son revers n'est pas forcément terne. Autrement posé en question pour un sujet du bac plus ou moins réformé, si la victoire est brillante, est-ce que l'échec est mat? Vous avez 3 minutes. Si on observe bien comment se présente une médaille, c'est un endroit et un revers, l'un ne va jamais sans l'autre. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si l'un est visible, l'autre n'est pas forcément caché. On peut être et ne pas être, pour répondre à Hamlet qui se pose régulièrement la question, même si ce n'est pas facile à vivre. Mais de toute manière, comme disait Shakespeare, on ne fait pas d'Hamlet sans casser les œufs. Alors ça, c'est pas de moi. On trouve cette réplique, et je le cite, dans le film de Jean-Louis Trintignant, Le Maître Nageur. Je parle sous le contrôle de Guillemette, bien évidemment. Ce n'est pas facile à vivre, car comme la médaille à son revers, tout système possède en lui sa propre perversion. La victoire et la défaite, le profit des uns et la misère des autres, le progrès et la réaction, la liberté et la privation de liberté, la comédie et la tragédie. On découvre trop souvent les effets pervers d'un système après coup, alors que la médaille est là pour rappeler que les deux sont collés l'un à l'autre, l'un se nourrit de l'un et l'autre de l'autre. Il n'y a qu'à lire, par exemple, le roman de Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance, dans lequel Perec raconte une île imaginaire où vivent des sportifs, nous y revoilà, des sportifs qui s'adonnent tous les jours à la compétition dans une sorte d'exaltation idéale de la démocratie. Mais le système, qui grandit sans garde-fou, se transforme peu à peu en société fasciste. Un grand roman auquel je donne facilement une médaille d'or et une boîte de loukoum, d'ailleurs en prime, et que les politiques seraient bien avisés de lire pour comprendre qu'il faut toujours regarder ce qui semble caché, mais qui ne l'est pas. L'anneau olympique est presque bouclé, il reste une minute pour conclure. Si la victoire est justement célébrée, l'échec, lui, ne doit pas être dénigré. Non seulement ils vont de pair, mais il est certain qu'on apprend autant de ses échecs que de ses victoires. L'école pourrait d'ailleurs s'en inspirer à l'heure où le bac se transforme, nous dire voilà, encore une fois, ne pas considérer l'échec comme une catastrophe, mais comme une façon de réajuster le tir, comme dirait Martin Fourcade, au moment de toucher la cible. D'ailleurs, Martin Fourcade a perdu sa première course de biathlon à cause d'erreurs de tir. Il a gagné la seconde, il vient de perdre la troisième, et je ne serais pas surpris qu'il gagne la quatrième. Il faut donc arrêter de penser que l'échec est mat. Il peut aussi être brillant, aussi brillant qu'une médaille d'or. CQFD, on a les petites mythologies qu'on mérite, mais on vit une époque formidable.
Merci beaucoup Éric Libio, rédacteur en chef à l'Express. On vous retrouve évidemment vendredi prochain. Merci à la programmation musicale de Muriel Pérez, à la documentation de Radio France et aux standardistes. Lundi, nous allons vous aider à choisir un bon médecin. Ce médecin qui sait vous écouter en prenant son temps, qui vous pose des questions ouvertes et positives, qui vous examine vraiment de la tête aux orteils, qui pose le bon diagnostic, qui n'est pas un distributeur automatique d'ordonnances et ne vous prescrit pas de médicaments inutiles. Et vous, dites-nous si vous avez un bon médecin dès maintenant sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook, et lundi dès 9h au 01 45 24 7000. Et j'aimerais remercier Antoine Vandeville qui a été un excellent stagiaire, à la fois enthousiaste, curieux, disponible. Au nom de toute l'équipe, bravo à toi et merci pour tout Antoine, et je te souhaite de réussir le barreau de Paris. À lundi.